l'université de la Terre, la rencontre de l'écologie et de l'économie, créée à l'initiative de François Lemarchand, le président de la Fondation Nature et Découverte, s'est déroulée à Paris les 2 et 3 avril 2011. Une conférence s'interrogeait sur le thème « Bâtir une nouvelle société en plaçant l'homme au cœur des débats ». Elle réunissait des invités tels que André Comte-Sponville, Pierre Rabhi et le frère Samuel Rouvillois. Le modérateur de cette conférence, le journaliste Yves Tréhard, a posé une judicieuse question à Pierre Rabhi.
Est-ce qu'on peut faire de l'écologie sans faire de décroissance ?
Nous sommes dans une époque extrêmement ambiguë, dans le sens où nous sommes quand même dans une époque où l'être humain s'est positionné comme un démiurge. C'est-à-dire, il va résoudre tous les problèmes afférents à la vie. Sauf que nous sommes aujourd'hui dans une situation, moi je ne sais pas s'il existe une vie après la mort, mais je me demande s'il en existe une avant la mort. Dans le sens où on n'a même pas défini ce que voulait dire vivre. On est pris dans une espèce de fatalité qui nous manipule, qui nous organise et qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une forme d'impasse. Comment j'ai pu trouver déceler cette impasse? Je suis obligé de passer par un petit peu de témoignage parce que je suis né dans le désert et de double culture, ce qu'on appelle double culture. Et tout cela m'a posé évidemment, le long de mon itinéraire, beaucoup de questions d'identité qui m'a fait fréquenter beaucoup les philosophes d'ailleurs, pour essayer de comprendre quel était le paradigme du monde d'aujourd'hui. On s'aperçoit que ce paradigme, il est marqué par le fait qu'on a exhumé une matière nauséabonde du sous-sol, qui nous pose problème d'ailleurs maintenant, la thermodynamique qui a évidemment modifié notre perception du temps et de l'espace par la vitesse, et l'être humain a dû s'adapter à tout cela. Alors, on est parti sur l'idée que c'est le progrès. C'est le progrès par lequel nous devons passer. Et ce progrès est accompagné de toute une sémantique qui, à mon avis, est manipulatoire. On vous dit, par exemple, que le progrès va libérer l'être humain. Et moi, quand j'ai travaillé, puisque je n'avais pas de qualification particulière à Paris dans une entreprise, n'ayant pas de qualification, j'ai été donc ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et quand on vous dit ouvrier spécialisé, c'est celui qui n'est spécialisé en rien, justement. Donc là aussi, et dans ce microcosme de l'entreprise, qu'est-ce que je vois? Il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y a des hommes haut de gamme qui sont en haut de la pyramide et des hommes bas de gamme qui sont en bas de la pyramide. Et donc ce qui m'a paru immédiat, c'est qu'en fait c'était le modèle de société qui s'emparait de l'être humain pour l'adapter. Et on vous crie par exemple que le progrès va libérer l'être humain, sauf que moi quand j'étudiais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qu'est-ce que je découvrais? Qu'il était incarcéré à vie. On passait de la maternelle à l'université, d'ailleurs les jeunes appellent ça le bahut. Ensuite on va dans les casernes. Tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va bien sûr dans sa caisse. Et puis on a la boîte où on stocke les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc voilà le destin, si vous voulez, que la modernité, sous les apparences de progrès, déguisé par les apparences du progrès, a modifié la condition humaine jusqu'à ravaler l'être humain à n'être qu'une entité productive et consommatrice. C'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et de ce fait, en donnant à l'argent, je ne suis absolument pas contre l'argent quand il sert la vie, mais en donnant à l'argent la toute-puissance, c'est-à-dire absolue sur le destin, eh bien, on a engagé l'humanité dans un paradigme qui est la négation même de la vie et, je dirais même, la négation de l'humain. Et aujourd'hui, on est dans ces multiples impasses. Alors moi, quand j'ai compris cela, j'ai voulu, en fait, ça a été pour moi un sauve-qui-peut. C'est pour ça que, travaillant dans une entreprise parisienne, nous décidons avec mon épouse, future épouse, d'aller vivre vers la nature. C'est-à-dire aller à la nature. Parce que je trouvais que ce confinement, c'est-à-dire ce hors-sol appliqué à l'humain, ne lui permettait pas d'avoir le regard large et tout le message qu'apporte la vie à travers la nature. La nature est un magnifique message à décrypter. Et au lieu de décrypter ce message, nous sommes confinés dans des systèmes qui ne nous permettent pas d'être dans le rapport à l'enchantement que nous offre la vie. Et ça a été la raison pour laquelle ça a été le retour à la Terre, en Ardèche, sur une petite terre aride dont personne ne voulait, mais qui était tellement belle qu'on a choisi de nous y installer. C'est la beauté en fait qui a primé, parce qu'au Crédit Agricole où je voulais emprunter, il me disait « mais vous êtes fou de vous installer sur ce lieu, vous allez crever de faim ». C'était très difficile d'expliquer aux préposés que ce n'était pas les critères agronomiques qui ont primé dans le choix, que c'était la beauté du lieu qui a primé dans le choix. C'est-à-dire comment retrouver l'enchantement que nous avions perdu, comment retrouver ce rapport à la nature que nous avions perdu et qui nous nourrit d'une façon formidable. Deuxième élément, c'est que je découvre l'agriculture puisque c'était la façon de tirer parti de ce lieu. Je suis ouvrier agricole et je m'aperçois que l'agriculture moderne avait déclaré la guerre à la vie. C'est-à-dire l'usage massif de produits chimiques, de pesticides, etc. C'est-à-dire qu'on était rentré dans un processus, et tout ça dû évidemment à l'unité pétrole reliée à tout ça, donc toute la logique et le paradigme entier qui est parti sur la valorisation du monde minéral au détriment du monde vivant. Et qu'est-ce que je découvre ? Une agriculture qui agresse la vie, qui agresse la terre, qui, en détruisant la vitalité de la terre, cette terre produit des plantes qui sont déficientes. Ces plantes déficientes sont malades. Une fois qu'elles sont malades, il faut avoir recours à des pesticides. Ces pesticides qui non seulement empoisonnent la nourriture elle-même, le sol, le sous-sol, les nappes phréatiques et l'environnement, ça voulait dire que notre paradigme était un paradigme qui se condamnait déjà à mort par le fait même qu'il était loin des lois de la vie. Donc c'est d'abord sur cette base-là, si vous voulez, d'une prise en compte de la nécessité de retrouver justement cet équilibre avec la vie qui a été le plus grand déterminant et qui a fait que je suis devenu un écologiste inconditionnel dans la mesure où on peut utiliser l'écologie, c'est-à-dire les lois de la vie elles-mêmes, plutôt que d'aller chercher des substances toxiques, eh bien on essaye de comprendre ce qu'est la vie, comment elle fonctionne, comment elle a existé, préexisté bien avant que nous n'existions, puisque paraît-il nous sommes dans les deux dernières minutes sur 24 heures, et comment a-t-elle fait pour finalement ce prodige de la vie, quel est-il, et se mettre à l'école de ce prodige, essayer de comprendre ce prodige, et on s'aperçoit, si on me demandait d'être bref, ce que je vais essayer de faire d'ailleurs, parce que je suis en train de dépasser
la parole,
eh bien, ça serait, si on me demandait en vitesse, qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique ? L'agriculture biologique, c'est simplement, ou l'agriculture écologique, c'est comprendre la beauté, les lois de la vie, comment la vie s'y prend, quel est le mystère de la vie, essayer d'être à cette école-là attentif, c'est-à-dire renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie.
Merci.